Nous voulons parler, ou commencer à parler, des épreuves et de la souffrance qui font partie de la vie du chrétien. Deutéronome 8:2, Exode 16:4.
Exode 16, verset 4. L'Éternel dit à moi, je vais faire pleuvoir pour vous du pain du haut du ciel. Le peuple sortira et en recueillera jour par jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il marche ou non selon ma loi.
Et Deutéronome 8:2. Deutéronome 8:2. Tu peux y aller. Oui, vas-y.
Viens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant 540 années dans le désert, afin de t'humilier et de découvrir, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses lois.
Amen. La Bible nous montre les deux chemins de l'épreuve. La Bible nous montre les deux chemins de la difficulté dans nos vies. Dans un premier cas, il dit, je t'ai mis dans l'abondance. J'ai fait pleuvoir la caille. Je t'ai donné tout ce que tu veux. Un bon travail, une bonne maison, une femme, tout ce que tu veux. Pour connaître les dispositions de ton cœur. Et savoir si tu serviras l'Éternel ou non. Et de l'autre côté, dans le livre de Deutéronome, il dit, je t'ai fait passer par des difficultés et par des épreuves. Une fois encore, c'était pour connaître les dispositions de ton cœur et pour savoir si tu servirais Dieu, oui ou non. C'est des choses qu'il faut qu'on se rappelle très souvent pour que nous puissions savoir quelle est la pensée de Dieu. Vous connaissez bien l'histoire de ce chauffeur de bus, peut-être vous ne connaissez pas, qui remet l'argent. Quelqu'un paye un ticket de bus, et puis le chauffeur de bus lui remet un peu plus d'argent, volontairement, hein. Et puis, le monsieur veut descendre, il se demande, dois-je remettre ou dois-je partir avec? Dois-je remettre ou dois-je partir? Après, il remet le reste d'argent. Et le chauffeur du bus lui demande, c'est toi qui es le pasteur qui est dans l'église du coin, n'est-ce pas? Il dit oui. Je t'ai donné expressément beaucoup plus d'argent pour savoir quel type de pasteur tu es. Je viens dans ton église dimanche. Voilà comment Dieu éprouve les pensées des hommes, pour connaître véritablement quelle était la disposition de son cœur. Et si ce pasteur était parti avec l'argent de ce chauffeur, vous comprenez ce qui se serait passé aussi simplement que ça. L'épreuve de manque est une épreuve parfois qu'on peut facilement vaincre. C'est-à-dire que quand je manque de quelque chose, je crie à l'Éternel, j'espère à l'Éternel. Il y avait un prédicateur qui était venu en France. Et bien évidemment, il y avait beaucoup d'Africains dans ces réunions. Alors, un commentateur d'une chaîne de télévision française va dire, c'était logique qu'il y ait beaucoup d'Africains dans cette réunion parce qu'ils sont dans le manque. Effectivement, quand on est dans une situation où on ne manque de rien, c'est plus difficile encore. C'est pour ça que nous avons chanté, il est venu jusqu'à nous, qui était à la gloire de son Père. Dieu dit, je t'ai tout donné pour voir la disposition de ton cœur. Et les gens, quand ils arrivent à ne plus avoir besoin de rien, ils se rendent compte qu'ils n'ont même plus besoin de Dieu. Parce qu'ils peuvent tout acheter. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que Israël, quand Dieu leur avait donné la caille en abondance et qu'ils avaient mis dans leur bouche, ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Ils n'ont même pas voulu mâcher. Et quand Israël est entré dans le pays d'Égypte, Dieu leur avait dit, Quand tu seras assis et que tu seras en train de manger et de boire, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Et c'est quand ils étaient assis en train de manger et de boire qu'ils ont donc oublié l'Éternel leur Dieu. Parce qu'ils avaient déjà atteint le niveau total. Et j'aime bien souvent dire que au moment où Adam et Ève donnaient encore les noms aux animaux, aux arbres et à tout ça, ils n'étaient pas préoccupés par autre chose. Mais quand ils étaient déjà assis en roi et dominateur de la terre, c'est là où les choses se sont gâtées dans leur vie. Vous voyez, l'épreuve la plus difficile, et le diable l'a forcément compris, c'est l'épreuve de l'abondance. Quand Dieu te donne tout, très facilement, tu t'éloignes de lui. Et je veux prendre à témoin la plupart des gens qui sont ici pour leur demander si ce n'est pas vrai. Quand ils étaient à l'université, ils cherchaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Ils le servaient de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Mais maintenant que la voiture s'est ajoutée et tout, alors nous voulons vous dire juste ce qu'on s'est dit vendredi à l'étude biblique, pour ceux qui étaient là. L'argent ne suffit jamais. Vous connaissez ça? Ça ne suffit? Quand tu gagnes 50 000, tu vas à pied et l'argent ne suffit pas. Quand tu gagnes 200 000, tu vas louer dans une maison de 50 000, tu vas commencer à prendre le taxi et l'argent ne va pas suffire. Quand tu auras 500 000, tu t'achèteras une belle voiture, tu auras la climatisation, tu vas changer les carreaux de la maison et l'argent ne suffira pas. Quand tu auras 1 million, tu auras 2 voitures, pour ne pas dire 3, et l'argent ne suffira jamais. Voilà donc l'homme qui a tout, et à la fin, qui n'a rien. Et parce qu'il a tout, il n'a même pas Dieu dans sa vie. C'est donc l'épreuve la plus difficile. La deuxième épreuve, c'est l'épreuve du manque. Tout ça, c'est pour voir la disposition du cœur. Parfois, Dieu permet que tout se vide autour de toi et que tu n'aies plus rien. Toujours pour voir la disposition de notre cœur. Nous sommes en train de faire un suivi de messages. Hein. Ne laisse personne voler ta paix. Et la semaine dernière, nous avons parlé de quoi? Hein? Comment gérer les problèmes avec Dieu? Aujourd'hui, nous sommes en train de dire que les épreuves et la souffrance, c'est multiforme, deux formes. Tu as tout, tu n'as rien. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir dire quel est le rôle de l'épreuve dans la vie de celui qui est enfant de Dieu. En avançant, nous voulons déjà dire que l'épreuve n'est pas la tentation. Il y a une différence entre l'épreuve et la tentation. L'épreuve vient de Dieu. Et Dieu permet l'épreuve pour voir la disposition de ton cœur. La tentation vient du diable. Et il y a des tentations que Dieu bloque. Parce qu'il a dit, il ne vous laissera pas être tenté au-delà de vos... Et quand il sent que le diable vient avec une force et une puissance qui va te détruire, il bloque. Il refuse que cette tentation soit exécutée. Et quand la tentation, la tentation est en action, il va créer une porte pour que tu puisses t'en sortir. C'est ce que dit la Bible. Donc, le diable, c'est, Dieu ne tente personne. D'ailleurs, Jacques 1, 13 à 15 dit, Dieu ne tente personne. Mais c'est le diable qui nous tente, premièrement, pour détruire nos vies. Nous avons vu la pression qu'il avait mise sur Joseph, quand Joseph était dans la maison de Potiphar. Vous voyez, les chrétiens qui ne connaissent pas les limites des choses. Heureusement que Joseph, dans sa relation avec Dieu, connaissait les limites des choses. Et il dit, j'ai tout ce dont j'ai besoin dans la maison, sauf toi, disait-il à la femme de Potiphar. J'ai la gestion de tout dans ce monde, sauf quoi? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Adam pouvait le dire au jardin. J'ai la gestion de tout le jardin, sauf l'arbre. L'arbre aussi. Or, la tentation viendra donc pour que tu touches l'arbre que tu ne devras pas toucher. Que tu fasses ce que Dieu ne voudrait pas que tu fasses, afin que tu sois totalement détruit, comme Adam et Ève l'ont été dans le jardin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la frontière entre ce qui est permis et ce qui n'est pas permis, se retrouvent dans les situations les plus difficiles de leur vie, parce que quand on franchit cette frontière et on atteint ce qui n'est pas permis, on commence à vivre les conséquences de ces problèmes, comme David a fini de détruire sa vie parce qu'il a touché le non permis. La tentation vient donc de Satan, soit pour détruire nos vies, soit pour nous mettre sous son autorité. Et il dit à Jésus, « Vois, je te donne ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, donc si tu entres sous mon autorité, je te donne l'argent, les femmes, les maisons, tout ce dont tu as besoin. Tu peux jouir de la terre et tu peux faire de la terre ce que tu veux. Mais sache que je te donne ça en contrepartie d'une chose. Je te mets sous mon autorité. » Et Jésus se libère en lui disant, « Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc je n'entre pas sous ton autorité, je reste sous l'autorité de Dieu. Il lui a même présenté encore des choses beaucoup plus subtiles pour le mettre toujours sous son autorité. Saute. Il est écrit, on donnera des ordres à ses anges pour que, tu vois, quelqu'un qui a atteint les hauteurs comme Jésus, le diable savait que Jésus avait atteint les hauteurs puisqu'il est descendu des hauteurs. Il est descendu des hauteurs, le diable le sait. Il sait qui est Jésus. Il sait qu'il a un pouvoir extraordinaire. Et il amène dans les hauteurs. Comme tu es descendu des hauteurs, saute. Entre dans ton orgueil. Prouve aux gens que tu es un homme d'exploit. Prouve aux gens que tu peux faire ce que tu veux parce que tu es le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, à ce moment précis, est soumis sous l'autorité de son Père et il ne peut plus faire ce qu'il veut. Amen. Je dis qu'il est soumis sous l'autorité de son Père et il ne peut plus faire ce qu'il veut. Dans là où tu es là, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Que tu le veuilles comprendre ou que tu ne le comprennes pas. Je rappelais encore vendredi que Claude me disait un jour, il n'y a pas de plus grand dictateur que Dieu. Pas de... on appelle ça quoi? Démocratie avec Dieu, il n'y a pas. Je dis, tu fais. Tu ne fais pas, tu es puni. Il n'y a même pas à discuter que est-ce que je peux. Le jour où tu vas discuter avec Dieu pour lui demander est-ce que je peux, et qui va te dire, prends le roi alors. C'est qui t'envoie déjà à Babylone. Le roi que Dieu est en train de te donner là va t'amener à Babylone. Donc ne commence pas à discuter, est-ce que je peux épouser un païen. Non, ça ne se discute pas. Le païen là va t'amener à Babylone, il va te dire, prends, non? Il va te dire, prends. Est-ce que je peux commencer à jongler? Non, il va t'amener directement à Babylone. Donc, il n'y a pas, on ne fait pas comme on veut. On fait comme Dieu veut. Et la tentation vient donc vers toi pour pouvoir t'amener à faire comme toi tu veux. Et quand tu commences à faire comme toi tu veux, le diable sait que tu vas aller à Babylone. Ça, c'est bien évident. Et nous l'avons encore dit dans une de nos études bibliques, la meilleure chose que Dieu a pu donner à l'homme, c'est son intelligence. Avec tout ce que cela pose comme problème de raisonnement, est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que? Donc, en fait, la deuxième chose que nous disons, premièrement, la tentation vient pour te détruire, Dieu ne détruit pas. Deuxièmement, la tentation vient te mettre sous l'autorité de Satan par ta vie et la pratique de ce que tu fais. Troisièmement, c'est pour t'amener, comme je disais, à une vie d'orgueil, à une vie de suffisance de soi, dans ce que nous appelons tentation dans Dieu te donne tout. Il te donne tout ce que tu veux. Frère, priez. Priez Dieu qui vous donne des maisons, des voitures, des terrains. Et moi, je dis à Dieu de vous donner. Mais seulement, sachez que c'est un piège dans lequel vous êtes en train d'entrer. J'ai aimé beaucoup Dieu qui disait dans le livre de Malachie, Vous habitez dans vos belles maisons, lambrisées, belles, et mon hôtel, ma maison est détruite. Amen. Et là, quand je discutais avec beaucoup de frères par rapport à ça, nous avons dit, je leur ai dit, et ça, si je vous posais la question, si vous avez dans votre maison votre cousin qui vient habiter chez vous, et que votre cousin prenne sa copine pour venir habiter dans votre maison, vous lui donnez le premier avertissement, il ne change pas. Le deuxième avertissement, il ne change pas. Le troisième avertissement, vous faites quoi? On fait quoi? On le met? Mais quand ce cousin-là est dans l'église et qu'il dit qu'il est enfant de Dieu, on dit quoi? Qu'on le part? N'est-ce pas? Et si on laisse communier, on va dire que le pasteur est trop? C'est ça, non? Mais dans vos propres maisons, vous n'acceptez pas? Dans la maison de l'Éternel, ça on accepte. Tout ce que vous n'acceptez pas chez vous, vous l'acceptez ici. Qui peut parmi vous peut avoir son enfant qui vit dans sa maison, disons l'enfant de son cousin qui vit dans sa maison ou de sa cousine, qui se lève matin, midi et soir et ne balaie pas la maison de l'Éternel, la maison là où il est. Avertissement 1, avertissement 2, troisième avertissement, tu appelles ses parents et tu dis, reprends ton enfant. Amen. Dans l'église, on va dire quoi? On passe un nom. Pourquoi? Parce que quand on a déjà atteint les hauteurs, comme nous avons atteint les hauteurs, non, si je demande à ma mère qui m'a venu laver les toilettes, ex-directrice qu'elle était, n'est-ce pas? Peut pas. Puisque je suis dans les hauteurs, Jésus est venu jusqu'à nous pour être serviteur. Mais nous nous sommes partis de serviteurs pour être princes. Et les princes ne lavent pas les... Et les princes ne balaient pas l'église. Parce que je vais vous donner un secret. Et là, on va... plus appeler les noms. Un mois, il appelle 4 fois des groupes différents. Une seule fois, le groupe vient. Et Dieu a suscité quelqu'un dans la communauté qui vient balayer l'église tous les dimanches matin. Il vient d'abord voir, est-ce que c'est propre, est-ce que c'est pas propre. C'est la personne qui a lavé aujourd'hui, vous êtes là, vous allez salir après. Chacun va balayer l'endroit où il s'est assis. Vous allez salir après. Dimanche prochain, il y a un groupe qui est appelé, non? Je sais qu'elle va encore balayer. Pourquoi? Parce que quand on a déjà atteint les hauteurs, il y a des directeurs, il y a des grands cadres, des docteurs, hein, docteur Alcada. Tout ce monde, est-ce qu'on peut encore balayer l'église? Ça, c'est... Voilà l'épreuve la plus grande que Dieu peut donner à quelqu'un. Quand tu atteins des hauteurs, c'est pas facile de pouvoir redescendre. Parce que le diable viendra te tenter. L'épreuve n'est pas la conséquence de nos péchés, comme le problème de David, comme j'ai dit, ou le problème de Balaam, qui a désobéi volontairement à Dieu. Tout ce qu'il a souffert après, ce n'était pas une épreuve, il n'était pas éprouvé, il ne subissait que les conséquences de sa vie. Voilà. Ce que j'ai dit déjà, c'est que l'épreuve a deux chemins. L'épreuve a deux chemins. L'abondance, qui est la plus grosse épreuve et la plus difficile, et dans laquelle le diable est en train de mettre des enfants de Dieu qui sont arrivés dans les hauteurs telles qu'ils ne peuvent plus descendre dans certains bas-fonds. Et ils ne peuvent plus supporter quelque chose. Et comme ils sont dans les hauteurs, rien ne les suffit. Rien ne les suffit. Va demander à un frère qui a déjà 5 costumes, si ça suffit déjà, il va te dire non. Il va te dire que ça ne suffit pas. Va demander à une sœur qui a déjà 15 paires de chaussures, demande-lui si ça suffit déjà. Il va te dire que ça ne suffit pas. Hé, ma sœur, tu souris là-bas. Il va te dire que ça ne suffit pas. Pour ceux qui ont atteint les hauteurs, ça ne suffit pas. Il y a ma maman en Finlande, elle disait, quand elle arrive au Cameroun, elle dit, en Finlande, la nourriture est gratuite, hein, pour tous les enfants de la CIL jusqu'en terminale. Nourriture gratuite, école gratuite, tout est gratuit. C'est à l'université qu'on commence à payer. Et elle dit que quand elle arrive en Afrique, elle donne un bonbon à un enfant, elle voit comment le visage de l'enfant est rayonnant de joie. Mais quand tu donnes un bonbon à un Finlandais, tu lâches ça comme ça derrière. Ça ne l'intéresse pas. Tu lui donnes la nourriture, il goûte. Ah, ça ne m'intéresse pas, il jette dans la poubelle. Parce qu'il a déjà atteint les hauteurs. C'est l'épreuve la plus difficile. Pouvoir descendre après. Pour pouvoir être serviteur comme Jésus, c'est très difficile. Allez demander à tous les bishops s'ils peuvent encore marcher à pied. Ils vont te dire non. Ils ne peuvent pas. Ils sont déjà habitués, on ouvre la portière, ils entrent, quand ils s'asseyent en train de vouloir prêcher, il y a les bouteilles d'eau, il y a tout. Demandez-leur encore d'entrer, non, ils ne vont pas partir. Ils ne vont pas accepter. Et c'est là où le diable donc commence à te détruire. Ça, c'est la première chose. Nous avons dit que ce n'est pas la tentation. La tentation vient du diable pour te détruire, pour te mettre sous son autorité. Mais le diable peut initier une tentation et Dieu prend cette tentation pour en faire une épreuve. C'est le cas de Job. Dieu peut accepter que la tentation soit initiée par le diable et lui, il en fait une épreuve et il te protège pendant l'épreuve. Maintenant donc, parlant d'épreuve, la Bible dit que l'épreuve doit être regardée comme un sujet de joie. Maintenant, nous sommes en train de parler de l'épreuve. L'épreuve doit être regardée comme un sujet de joie. Quand on dit dans Matthieu 5, versets 11 à 12, quelqu'un va me lire 1 Pierre 4, 13. Quand on va lire dans Matthieu 5, versets 11 à 12, Jésus nous dit, réjouissez-vous lorsqu'on vous persécutera, on vous outragera et on dira faussement de vous toutes sortes de mal. Vous avez bien compris, hein? Il a dit, donc quand on vous dit les mauvaises choses pas à cause de Jésus, ne vous réjouissez pas parce que ça ne le concerne pas. C'est vrai en plus, ça ne le concerne pas. Si vous subissez des choses et que ce ne soit pas à cause de Jésus, ce n'est pas que ça regarde Jésus. Si ton père te dit, mon fils, pourquoi tu as fait ça? Ah, tu m'ennuies. La gifle qui vient là, ce n'est pas à cause de Jésus, hein? La gifle qui va suivre. Il ne faut pas dire que tu es persécuté. Tu as reçu le salaire de ta réponse. Les enfants, vous n'avez pas dit amen. Tu as reçu le salaire de ta réponse. Mais quand c'est à cause de son nom, je dis bien à cause de son nom, parce que tu es en train de mettre en pratique sa parole et que tu marches selon ses voies, il dit, réjouissez-vous. Parce qu'en fait, l'épreuve de Jésus qui nous centre sur une chose, la vie de Christ. C'est dans la manifestation de la vie de Christ que se trouve l'épreuve. L'épreuve n'est pas hors de Christ. Quand je suis déjà hors de Christ, il n'y a plus d'épreuve. Mais quand je marche à cause de Christ, 1 Pierre 4, 13, dit quoi?
Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez au souffrant de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans la détresse lorsque sa gloire apparaît.
Réjouissez-vous de la part. Et ça, c'est quand même amusant. Hein? Tu souffres, mais on te dit que, gars, sois content de la part que tu as. Parce que tout à l'heure, on va lire que 1 Pierre 2, 19 à 20. Pour terminer ça. 1 Pierre 2, 19 à 20.
1 Pierre 2, 19 à 20. Car c'est une grâce que de supporter les afflictions par notre conscience avec Dieu. Car on souffre injustement. En effet, quel bien y a-t-il à supporter le mauvais traitement pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de l'homme.
Amen. Donc si quelqu'un vient te gifler au nom de Jésus, tu dois être content, non? Parce que c'est une grâce que tu as de participer aux souffrances de Christ. Il dit, c'est une grâce, hein? Jésus est au ciel. Il te voit te plaindre, il dit, regarde-moi celui-là. Je lui donne la grâce de souffrir comme moi. Et il commence à se plaindre. Je lui donne la grâce de ne pas avoir la nourriture. et de pouvoir vivre dans la communion avec Dieu, il commence à se plaindre. Je lui donne la grâce de perdre le travail pour qu'il soit en communion avec moi, il commence à se plaindre. Au ciel, il se demande même ce que les hommes cherchent à la fin. Vous, j'ai chanté les complaintes, vous n'avez pas pleuré. J'ai chanté les louanges, vous n'avez pas dansé. Vous voulez donc quoi à la fin? Vous voyez, il dit, c'est une grâce. Donc tu dois être plutôt content. Tu dois être plutôt en train de danser. Que, on m'a giflé aujourd'hui au nom de Jésus. Tu passes là, tu vois des gens, vous savez, on m'a giflé au nom de Jésus. Tu pars là-bas, tu vas, tu sais, on m'a giflé au nom de Jésus. Mon père m'a chassé au nom de Jésus. C'est-à-dire que tu pars, tu chantes et tout et tout. Vous n'êtes pas d'accord? C'est une grâce. Et quand tu es chez toi, tu dis, oh Jésus, j'ai la grâce de participer à tes souffrances. Et Paul, lui, va même jusqu'à dire, j'ai achevé dans mon corps les souffrances de Christ. Il a tellement souffert au nom de Jésus. Au moment où il était à la fin de sa vie, il dit, j'ai achevé. Donc, madame, si ton mari ne te donne pas l'argent au nom de Jésus, réjouis-toi, chante-lui des cantiques. Dis-lui merci de me faire participer dans la grâce de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez suivi le cantique que je viens de chanter, hein? Merci chérie, parce que tu me fais participer dans la grâce de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen.
C'est une chose extraordinaire. C'est une grâce. Une grâce. Et la Bible dit que si tu sais ça, tu vas te réjouir jour après jour. Si maintenant la souffrance vient du Seigneur. Et je vais faire la différence. Tu as un problème devant toi. Je prends toujours le problème d'un homme qui ne donne pas l'argent de nourriture à sa femme. Le problème est devant toi. Maintenant, le problème peut être au nom de Jésus, comme le problème peut être en ton nom personnel. Tu ne gères pas bien l'argent de la maison. Le problème est en ton nom personnel. Tu gères bien l'argent de la maison, mais ce n'est pas à cause de ta foi. Parce que ton mari est égoïste, qu'il ne te donne pas l'argent de nourriture. Tu as donc deux possibilités encore. La première possibilité, c'est que tu rejettes l'épreuve et tu te plains. Là, ce n'est plus au nom de Jésus. La deuxième possibilité, c'est que tu dis, Seigneur Jésus, selon ce qui est écrit, c'est en ton nom que j'accepte cette difficulté. Ça devient maintenant l'épreuve au nom du Seigneur. Et parce que tu as dit, Seigneur, c'est en ton nom que j'accepte cette difficulté, alors commence à chanter. Chérie, je suis content parce que tu ne m'as pas donné l'argent. Amen, oh.
Amen.
Il y a ma soeur là-bas qui veut rire. Le Seigneur est vivant. Et vous sentez, vous allez voir comment ça vous libère. Hein. Vous allez voir comment vous êtes en connexion avec Jésus. Et vous pouvez dire, comme Paul, j'ai passé des jours à jeûne à cause du Seigneur. Et le Seigneur, où va cette joie? Elle est double. Pour le royaume de Dieu. Apocalypse 7, verset 14 à 16. 1 Pierre 1, 7. La joie est double. D'abord, Apocalypse 7, 14 à 16. 1 Pierre 1, 7. Matthieu 5, 11 à 12. Quelqu'un va me lire Apocalypse 7, 14 à 16.
Seigneur, tu le sais, rien ne dit. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leur robe et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône versera sa table sur eux.
Amen. Ça veut dire que tu te retrouves ce jour dans la louange là. Et tu te demandes pourquoi est-ce que tu es en train de louer. Tu vois un ange qui vient à côté de toi, qui te sait dans ton cœur et qui te dit, ma fille, tu as pu supporter ton père qui était méchant. Et tu avais déclaré que c'est au nom de toi, Jésus, que je supporte un tel père. Et je continue à faire les devoirs d'une fille. Et le Seigneur Jésus, ce jour-là, va venir vers toi et va te dire, ma fille, entre dans la joie de ton père. Parce que c'est à mon nom que tu as supporté ton cancre de père. Et peut-être il va ouvrir la terre et il va dire, ma fille, regarde, il a même cru déjà. Amen. Bon, ça c'est peut-être. 1 Pierre 1:7.
Afin que le preuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, si cependant elle tient par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ
est pour résultat quand le Seigneur apparaîtra, la louange, la gloire et l'honneur. Il dit, il essuiera les larmes de leurs yeux. Vous voyez, c'est pour le royaume de Dieu que nous souffrons ces choses sur la terre. Et quand tu n'as pas fait une projection par rapport au royaume de Dieu, et que tu regardes les choses par rapport à la chair et aux choses de la terre, tu ne pourras jamais faire une élévation. Ça va être très difficile pour toi. Parce que ces choses, tu ne vois pas la joie du ciel. Tu ne vois pas la souffrance du ciel. Vous voyez les apôtres au premier siècle. Quand on les jetait dans les arènes, les gens étaient étonnés qu'on vous jette dans les arènes. Ils sont contents, ils sont en train de chanter des cantiques et tout. Pourquoi? Parce que quand les lions venaient, ils étaient plus sur la terre, ils s'étaient déjà projetés au ciel. Et la joie du ciel les avait tellement inondés qu'ils vont dire comme Étienne, je vois le ciel ouvert. Alléluia. Je vois le ciel ouvert. Est-ce que tu as vu le ciel ouvert dans tes épreuves? Normalement, tu dois voir le ciel ouvert, quand tu es dans les épreuves, et dire comme Étienne, je vois le Seigneur. Voilà le Seigneur qui est assis à la droite de son Père. Parce que les épreuves telles que je suis en train de les vivre au nom du Seigneur m'amènent à regarder le ciel et créer la louange et la gloire du Seigneur. Et je vois le ciel ouvert. Frère, si le ciel est fermé devant toi pendant que tu es dans les épreuves, tu as encore un pas à faire. Un très grand pas à faire. Amen. C'est difficile. Si c'est difficile, on arrête. C'est difficile. Amen. C'est pour le royaume de Dieu. Et je dois voir le ciel ouvert. Je dois voir la gloire de Dieu qui descend. Je dois voir la gloire de Dieu qui vient. Et ce sera merveilleux. Jésus l'a vu. Les anges sont venus le servir. Les anges sont venus le servir. Étienne a vu la gloire de Dieu. Le ciel s'est ouvert. Ils ont tous vu la gloire de Dieu pendant qu'ils étaient dans leur épreuve. La première chose, c'est donc la joie du royaume. La joie de ce que tu vas voir dans le royaume et la joie de ce que les gloires du Seigneur sont ouvertes. La deuxième chose, c'est l'identification à Christ. 1 Pierre 2:21. 1 Pierre 2:21.
Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous oubliez ce qui se passe.
Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Nous avons été appelés à la souffrance. C'est à cela que vous avez été appelés. Je n'ai pas dit que quand vous souffrez pour César, c'est la souffrance de Dieu. Hein? Non. Quand vous souffrez pour les affaires de la terre, ce n'est pas la souffrance de Dieu. Quand vous souffrez pour l'œuvre de Dieu, vous êtes piqué par les moumoutes, vous revenez malade. Vous allez quelque part, on vous cogne le bâton sur la tête. Vous acceptez au nom de Jésus-Christ tout le mal qu'on vous fait. Là, c'est à cela que vous avez été appelé. Pour que l'épreuve de votre foi ouvre le ciel et que la gloire de Dieu descende dans votre vie. Nous avons parlé la semaine dernière comment gérer nos problèmes avec Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons parler des épreuves. Vous voyez donc, bien-aimés, c'est une grâce pour moi de souffrir. Je m'identifie à Christ. Comme disait donc Paul que j'ai cité tout à l'heure, je m'identifie à Christ. Je sais donc que là où je suis maintenant, là où je suis, avec tout ce que j'ai souffert dans ma vie, je parle de moi-même, avec tout ce que j'ai souffert dans ma vie, je m'identifie vraiment à Christ. Parce que c'est à ça que j'ai été appelé. Et la Bible va continuer encore en parlant d'une chose extraordinaire. Celui qui a souffert en a fini avec... Vous ne connaissez pas votre livre? Celui qui a souffert en a fini avec le péché. Tu as été tellement travaillé par Christ que, à la fin, gloire à Dieu, l'argent ne te dit plus rien. Qu'on te donne, qu'on ne te donne pas, ça ne te dit plus rien. J'ai rencontré un jour un frère, après une campagne de vaccination en Finlande, quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a parlé de ses mauvaises habitudes et tout, il m'a demandé de prier pour lui. Je lui ai parlé de la responsabilité que nous avons par rapport à notre libération totale. Et je lui ai donné pour l'aider deux versets de la Bible. Le premier que j'utilise tous les jours, vraiment tous les jours, pratiquement chaque semaine, je prie pour ça. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté et les mauvais désirs. Quand je me mets à genoux devant le Seigneur, une fois, deux fois, je dis, Seigneur, je fais mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs. Et ça revient dans ma tête comme une vérité. Et ça fait partie de ma vie. Et ça fait donc que, à un certain moment, je n'ai pas dit que la chair ne peut pas souffrir. Mais tu es dans le manque, ça ne te dit rien. Parce que tu as fait mourir les membres qui sont sur la terre, les mauvais désirs. Tu peux même être dans une position telle que tu veux être emporté, tu ne peux pas. Et après le verset de 1 Thessaloniciens 5:23, je pense, dit que le Seigneur lui-même vous sanctifie, corps, âme et esprit. Et quand j'ai donc fini de faire mourir les membres qui sont sur la terre, je m'en vais vers le Seigneur, je lui dis, Seigneur, sanctifie-moi maintenant corps, âme et esprit. Tout simplement parce que celui qui a souffert en a fini. Frère, si vous voulez finir avec le mal, laissez que le Seigneur vous amène sur ce chemin de la souffrance. Mais pourquoi alors les épreuves font-elles plus mal que de bien dans la vie des chrétiens? Pourquoi les épreuves sont-elles plus difficiles dans la vie des chrétiens? C'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas faire comme ça, il passe deux jours sans manger et tout. Et je vais honnêtement dire que beaucoup de personnes qui me connaissent savent que je ne mange pas beaucoup. Juste un petit truc, ça me suffit. Juste un peu comme ça. En fait, cela vient de ma vie avec le Seigneur. Parce que si tu es focalisé dans l'œuvre de Dieu, tu vas partir de Douala et Abassi à pied. Tu n'as que la banane entre les mains. Et tu chantes des cantiques à la louange et à la gloire du Seigneur. Ton estomac est déjà habitué à manger une banane pour une semaine. C'est pour ça que quand la persécution viendra et que la famine sera dans ce monde, nous autres, nous serons bien. Une graine de riz me fait une semaine. Toi, il te faudra 25. Tu ne trouveras même pas 4. Nous qui avons donc souffert à manger une seule graine de riz pendant notre vie avec Jésus, nous serons différents de vous qui avez l'entrée, le plat de l'essence, la sortie, et après la sortie, on fait quoi? Ce jour-là, tu vas voir comment tu vas fondre. Mais quand je prends ma graine de riz, je suis en forme. On avance. Si tu veux, je te porte sur le dos. Pourquoi? Parce que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Manger ne disait plus rien à l'apôtre Paul. Ce qui était pour lui, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Vous voyez, je prends ces exemples pour vous démontrer. Quand tu as déjà passé 3 jours sans manger, tu demandes à ton père, il ne donne pas. Tu demandes, il ne donne pas. Tu demandes, il ne donne pas. Ça fait déjà 3 jours de... Et tu rentres dans ta chambre, tu loues le Seigneur, tu dis merci Seigneur, parce que papa ne m'a pas donné. Pas te plaindre. Hein. Merci parce qu'il ne m'a pas donné. Deuxième jour, merci parce qu'il ne m'a pas donné. Troisième jour, merci parce qu'il ne m'a pas donné. Ton corps est déjà habitué à manger le merci, non? Amen. C'est des choses qui sont aussi simples. Hein. Ton corps est déjà habitué qu'il n'y a pas merci. Tu vas maintenant dans un endroit où il n'y a pas de nourriture. Tu te rappelles tout simplement que quand je ne mangeais pas chez mon père, je disais tout simplement merci. Quand les frères seront en train de se plaindre qu'il n'y a pas l'eau ici, tu vas sous un arbre, tu commences à dire merci Seigneur. Merci parce qu'il n'y a pas l'eau. Parce que tu as déjà souffert. Et comme tu as déjà souffert, tu en as fini avec le péché. On se comprend toujours? C'est sûr qu'on se comprend. Ok. Bon. Je ne sais pas si j'ai déjà souffert de la soif. Parce que je cherche mon eau. Amen. Donc nous disons que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Et c'est quelque chose de très beau. Et Pierre nous dit que c'est à ça que nous sommes appelés. Mais ça devient difficile dans nos vies à cause de la chair. nous ne voulons pas laisser notre chair, ou bien même à cause du manque de connaissance. Parce que si je sais, moi, que la souffrance au nom du Seigneur m'identifie à Christ, que la souffrance au nom du Seigneur me donne une particularité devant le Seigneur, dans le royaume de Dieu, et que c'est une grâce, et que la souffrance dans ma vie travaille ma vie pour que je finisse avec le péché sur la terre, ça veut donc dire que quand je vais être malade, le rôle de la maladie, c'est de faire que je ne me plaigne. Je ne me plaigne plus. C'est pour ça que je suis là. Et quand j'ai porté ça et que j'ai cessé de me plaindre, le jour où le Seigneur va me guérir, je vais commencer à remarcher. Quand la guerre va venir au Cameroun, je serai l'une des personnes qui ne se plaindra pas parce que j'ai appris à ne pas me plaindre à cause de la souffrance par laquelle je suis passé. Et si je rejette cela, il y a une sœur qui, quand elle s'est mariée, elle se plaignait de son mari. Son mari est dur, son mari est difficile. Et quelqu'un l'a appelé. Enfin, Dieu l'a appelé, lui a dit, tu sais, quand tu étais dans la maison de ton père, tu te plaignais que ton père était dur. Si tu t'étais soumis à la dureté de ton père, tu te serais soumis à la dureté de ton... Comme tu as rejeté la dureté de ton père, tu vas aussi rejeter la dureté de ton mari, tu vas rejeter la dureté de ton patron, tu vas rejeter même la dureté de Dieu. Le jour où tu passeras par l'épreuve, tu vas dire à Dieu que pourquoi? Parce que tu as refusé de te soumettre à la dureté de celui qui était devant toi. On se comprend toujours? Vous voyez, l'épreuve est tellement bien pour le travail que ça fait dans notre vie. Et pour le niveau où ça veut nous amener, la libération de notre personne. Et Jésus lui-même nous dit, Pierre dit, c'est à cela que vous êtes appelés. Jésus nous dit, nul ne quittera son père et sa mère, ses frères et ses sœurs, sans trouver des pères, des mères, des frères, avec les persécutions. Ça, c'est bien précisé dans le livre de Marc, au chapitre 20, au chapitre 10, verset 28 à 31. Avec les persécutions. Je te dis sincèrement, si tu es enfant de Dieu véritable, tu quittes ton père, tu vas trouver un père. Tu quittes ta mère, tu vas trouver une mère. Tu quittes ton frère, tu vas trouver un frère. Mais seulement avec des persécutions. Si tu élimines des persécutions dans ça, tu n'es plus disciple. Tu ne pourras pas parvenir là où le Seigneur veut. Donc, en gros, la souffrance n'est pas le fruit du péché. La maladie n'est pas le fruit du péché. La maladie n'est pas le fruit de l'abandon de Dieu. La souffrance n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. La souffrance veut que Dieu te fait passer par un moule qui te permet d'arriver quelque part. Et c'est pour cela donc que quand on sait ça, on va gérer nos problèmes comme Josaphat a géré son problème. Dès que ça commence, on va où? Au temple. On fait quoi? On loue. Et on sort du temple avec la louange. Et on a la paix du cœur. Parce que tu as vécu, tu sais comment te comporter à ce moment précis. Je ne suis pas en train de dire que la chair ne souffre pas. Hein. Il faut qu'on fasse la différence des choses. Je n'ai pas dit que l'épreuve ne fait pas souffrir la chair. Hein. Sinon, Jésus n'allait pas crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Non, il souffrait dans sa chair. La Bible dit même qu'au moment où il était dans la prière, il a tressailli. C'est tressailli qu'on m'a dit dans le livre de Luc. Quand il a vu les choses venir, il a commencé à tressaillir. Et il a dit, Père, si tu faisais que la coupe s'éloigne, mais pas ma volonté, mais la tienne. Hein? C'est ce qu'on a chanté là tout à l'heure. Donc la pauvreté n'est pas un signe de manque. Comme on nous le fait dire, non, ce n'est pas un signe de manque. Mais la pauvreté, c'est un signe que le regard de Dieu est posé sur toi. Un regard d'un Dieu qui veut t'amener dans les hauteurs avec lui. Pas les hauteurs des choses de la terre, mais les hauteurs des choses du royaume, qui produisent la joie éternelle. Et qui crée au-dedans de ton cœur une joie imperturbable. Enfin, une joie qui ne change pas. Et quand tu as le regard vers le ciel, tu vois le ciel ouvert. Et tu es dans la joie. Maintenant donc, avant de passer dans le rôle de l'épreuve, nous allons lire 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1 dit quoi?
Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, nous aussi amenés pour de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair, on a
souffert. Il faut s'armer de la même pensée. Hé ma fille, le jour où tu vas te décider de te marier, va avec la pensée que tu vas souffrir. Si tu vas dire que je vais, Seigneur, merci de m'avoir donné un mari, c'est la joie. Ne viens pas me voir quand il y a les épreuves. Arme-toi de la pensée de souffrir. Enfant de Dieu, armez-vous de la pensée de souffrir. Ça doit être là-dedans. La pensée de souffrir marche ensemble avec le salut. Il n'y a pas de salut véritable, entre guillemets, sans la souffrance. Parce que c'est la souffrance qui fait, qui fortifie, qui je ne sais pas moi, qui cimente le salut dans ta vie. C'est la souffrance là qui cimente le salut dans ta vie. Et le salut provoque la souffrance. Tu le veux ou tu ne le veux pas. Donc, on ne peut pas ne pas marcher avec Dieu sans avoir la pensée. Et l'apôtre Pierre, qui avait dit à Jésus, qui avait dit, je ne le connais pas, va venir vous dire aujourd'hui que armez-vous de la pensée de souffrir. Parce que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Pourquoi les cœurs des gens sont tristes, malheureux et tout? J'ai pas dit que la chair ne souffre pas. Pourquoi on peut rester dans cette situation? Parce qu'on ne s'est pas armé de la pensée de souffrir. Je dis bien souffrir pour Christ. C'est pour ça qu'on est triste. On est malheureux et on ne peut pas supporter qu'un frère te fasse quelque chose et tout. Et les motivations changent. Aujourd'hui, je marche avec tonton Guy, on est de très bons amis. Il me choque, les 2000 francs que je lui donnais souvent pour qu'il prenne le taxi, je ne lui donne même plus. Il croit que quoi? Vous voyez, et on est là, on est changeant, on n'est pas stable, on est tout simplement parce qu'on n'est pas armé de la pensée de souffrir. Et de souffrir pour Christ. Et maintenant, comme on n'est pas armé de la pensée de souffrir, on n'est pas focalisé vers Dieu, qui devient donc notre problème? Le prochain et le diable. Voilà les deux personnes. Le prochain et le diable. Et le prochain là, c'est mon enfant, ma femme, mon mari, mon voisin, mon collègue. Quand je parle de lui, c'est comme si c'est un démon qui a les cornes sur la tête. C'est lui qui est mon problème. Parce que je ne me suis pas armé de la pensée de souffrir. Dis à ton voisin, arme-toi de la pensée de souffrir. Qui n'a pas de voisin, qui vient me dire? Pierre dit, armez-vous de la pensée de souffrir. Parce que celui qui a souffert en a fini avec le péché. Voilà l'objectif de la souffrance, c'est d'amener à une situation où tu en as fini avec le péché. Tu as fini de te fâcher, tu ne te fâches plus. Tu t'es tellement fâché dans ta vie que maintenant tu dis que je ne me fâche plus alors, au nom de Jésus. Hein? Qui se fâche souvent comme moi? Qui dise comme moi, je ne me fâche plus? Justement parce que tu t'es tellement fâché que... Et le Seigneur t'a laissé tellement te fâcher, et chaque fois que tu te retournes à lui, un jour il vient te dire que tu te fâches encore. Tu lui dis, oui Seigneur, ça me fait mal. Il ajoute. Il revient encore et te demande, tu te fâches encore? Oui Seigneur, tu ne veux pas que... Il ajoute encore. Le jour où tu vas lui dire que je ne me fâche plus, il enlève tout. Il dit que bon, comme tu as compris que tu ne dois pas te fâcher, j'enlève tout. Armez-vous de la pensée de souffrir. Quel est donc le rôle de l'épreuve? On reste encore, on arrête. On fait ça la semaine prochaine. On arrête. Quel est le rôle de l'épreuve dans nos vies? Quelqu'un va me lire Hébreux 5, 7 et 8. Une autre va préparer 1 Corinthiens 1, 3 à 7. Bon, on a déjà lu 1 Pierre 4, 1 à 2, mais on va encore le relire. Hébreux 5, 7 à 8. 7 et 8.
C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec grande prière, avec calme, des prières et des supplications à celui qui pouvait est le trophée de la mort, et ayant été exaucé la tombe de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, obéissant par les choses dont il a fait.
Amen. Le rôle de l'épreuve et de la souffrance, c'est de nous amener à l'obéissance de Christ, tout simplement. C'est pour que nous puissions obéir mieux encore à Christ. C'est-à-dire que c'est par la souffrance que je pardonnerai sincèrement celui qui me fait souffrir. C'est grâce à la souffrance que je vais mesurer le degré d'amour que j'ai sincèrement pour celui qui me prend ce qui m'appartient. Pour celui qui me, à qui j'ai donné de l'argent et qui m'a pas remboursé, qui ne veut même pas me remettre mon argent, cet argent qui ne me remet pas va me prouver si j'aime l'argent plus que l'homme. Amen. Voilà le rôle de la souffrance. Celui qui vient me gifler va m'amener à mesurer la capacité d'obéir à la parole de Dieu qui dit, si on te gifle sur la joue droite, tu montres la joue gauche. Qui veut que je le gifle? Ok, gardons ça. Tout à l'heure. C'est ça pas la même chose, tu veux maintenant? Amen. Gloire à Dieu. C'est ça le rôle de l'épreuve. Nous amener à une obéissance parfaite. À une obéissance totale. Ce n'est pas pour nous attrister, ce n'est pas pour nous abattre. Mais je n'ai pas dit que la chair nous souffre. Enfin, la chair va souffrir, mais l'esprit au-dedans de toi va se renouveler. Et l'apôtre Paul dira donc, alors que le verset est parti. Alors que notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle. Amen. Donc, l'être extérieur se détruit par les souffrances. Tu cries, waouh, on m'a encore piqué ici aujourd'hui. Ah, on m'a encore fait comme ça aujourd'hui. Et tu es là, mais quand tu es dans ta chambre, dans la louange et l'adoration, et que le ciel s'ouvre, l'être intérieur va se renouveler. Et quand tu te vas te réveiller le matin, tu vas aller le sur, tu dis que tape-moi encore. Tape-moi encore, me voici. Il tape pas, tu pleures, tu rentres le matin et tu dis tape-moi encore. Tu fais ça 10 fois, il te dit que lui-même va te dire que tu ne te fatigues pas. Je ne vais pas te taper toute la vie. Amen. Voilà le rôle de l'épreuve. T'amener à une obéissance parfaite. La deuxième chose, 2 Corinthiens 1, 3 à 7. 1 Pierre 4, 1 à 2, 1 Pierre 4, 11. 2 Corinthiens 1, 3 à 7. Quelqu'un va lire rapidement.
2 Corinthiens 1, 3 à 7. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de miséricorde et le Dieu de notre Seigneur. Qui nous conduit dans toutes les afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques années.
On peut rester là. Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pour que nous soyons consolés par Dieu. Afin que nous puissions consoler ceux aussi qui sont dans les mêmes souffrances. Quand tu n'as pas jamais connu une gifle qui brûle ta joue, là, comment est-ce que tu pourras dire à quelqu'un qui vient te dire qu'on m'a giflé, ma joue brûle? Tu sauras quoi lui dire. Parce que tu es déjà passé par cette situation. Et tu as été tellement consolé par Dieu, tu sens tellement la présence de Dieu dans ta vie, que ça deviendra facile pour toi de pouvoir parler aux autres qui sont dans la même situation que toi. Mais si tu n'es pas passé par là, tu ne pourras même jamais. Un jour à une réunion de pasteurs, je leur ai dit que le problème aujourd'hui de l'église, c'est que quand un pasteur prépare son message, il prend tous les livres, Reinhard Bonnke, Billy Graham, et livre dictionnaire biblique. Il prend ça. Il fait une compilation de tout ce qu'il veut et il sort un message de tout ça. C'est le message de ce que les autres savent de Jésus, mais pas le message de ce que toi, tu connais de Jésus. Ce que tu connais de Jésus, c'est ce que tu as vécu avec Jésus, même si c'est écrit dans la parole de Dieu. La vérité de l'évangile que je prêche, c'est que cet évangile est écrit dans la parole de Dieu et cet évangile a pris forme dans ma vie par la nouvelle naissance, la grâce que Dieu a envoyée et par la souffrance qui me fait avoir corps avec cet évangile. Et aujourd'hui, quand je peux dire à quelqu'un, souffrir te libère, c'est parce que j'ai déjà souffert et je suis libre. Vous voyez, si tu n'as jamais souffert et tu es libre, tu vas seulement citer Billy Graham qui dit que souffrir, c'est te libère. Tu parles, le jour où quelqu'un va te prendre ta voiture, tu le mets directement en prison. Mais je suis consolé pour votre consolation. Voilà un rôle très important qui a une implication dans la vie. Ça, c'est maintenant des implications terrestres. J'avais parlé des implications célestes. Terrestre, j'entre dans une obéissance parfaite. Je peux consoler facilement ceux qui sont dans les problèmes. J'en ai fini avec le péché. Et 1 Pierre 4, 11 va dire quoi? Donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait abonder la gloire de Dieu sur nous. Et nous allons prendre un exemple pratique. On va lire Matthieu 5, versets 38 à 44. Et on va faire une sorte d'exercice. Matthieu 5, 38 à 44.
Vous avez appris qu'il a été dit, pas mauvais et pas mauvais. Mais moi, je vous dirai dans les histoires de choses. Si quelqu'un te frappe sur la témoigne, je n'en plus aussi de l'autre. Si quelqu'un veut se lever contre toi et prendre ta tenue, laisse-lui encore le manteau. Si quelqu'un te force à faire un mur, fais-en deux avec. Donne à celui qui te demande de le couvrir, pas de celui qui veut emporter le poids. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton prochain. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent.
Ok, là nous avons deux personnes qui ne sont pas éprouvées. La première c'est le verset 38. Lisez le verset 38. Une personne qui n'est pas éprouvée, c'est une personne qui est assise dans sa propre justice. Œil pour œil. Dent pour dent. Il y avait une sœur qui disait souvent, quand j'étais dans le monde, on ne me donnait pas un zéro. C'est pas dans le Seigneur qu'on va me donner un zéro. Tu donnes un, j'égalise. Amen. Compétition de la chair. Gifle, gifle. Un zéro, jamais de la vie. Et le plus souvent, c'est que quand tu as donné un zéro, elle fait tout pour dominer. Tu savais pour vaincre, quoi. Elle te fait pan, elle ajoute encore pan, 2-1. Maintenant, elle attend que tu réagisses. Jamais un zéro. Vous voyez un peu les gens qui sont encore assis dans leur propre justice. Des gens qui ne sont pas éprouvés sont déjà qui sont assis dans leur propre justice. Et le verset 43 nous dit quoi?
Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Voilà des gens qui ne sont pas éprouvés. Ils sont assis dans leur rancœur. Ils ne connaissent ni l'amour, ni le pardon. Parce qu'ils sont assis dans leur rancœur. Ils sont assis dans leur propre justice. Ils sont assis dans leur rancœur. Verset 39. Nous allons parler des gens qui sont éprouvés. Verset 39. Amen. Vous comprenez que à force de vous gifler, vous allez sortir de la rancœur et de la haine. Si vous voulez ne plus haïr quelqu'un, cherchez quelqu'un qui va vous gifler tous les jours. Il gifle pas, tu le hais. Il gifle pas, tu le hais moins. Il gifle encore, tu le hais encore moins. Il gifle encore, jusqu'au jour où il va te gifler, tu vas le regarder tout simplement. La rancœur est partie. Quelqu'un qui a été éprouvé, hey, mon fils, c'est pas facile. quelqu'un qui a été éprouvé, vous voyez quelqu'un qui n'est pas assis dans sa rancœur. On lui prend un manteau, il te dit pas. On lui prend sa tunique, il te dit pas. Verset 40. Ok. C'est celui qui n'est pas assis, il s'est déjà détaché totalement du matériel, des choses de la terre. Voilà quelqu'un qui est éprouvé. Il est prêt à se délester de tout. Venez dans ma maison, prenez tout. Vous savez, très souvent, nous disons des choses sans... Un jour, j'avais dit dans une église, je leur disais que quand le voleur vient chez toi, tu ouvres la porte, tu lui dis, prends ce que tu veux pas. Et là, j'étais sincère, hein, je leur disais, il vient, toc, 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 c'est qui? Moi. Toi qui, le voleur, entre mon gars. Il y a la nourriture dans la main, mais tu veux manger, tu donnes la nourriture. Il y a ça aussi, tu veux manger, prends. Et quand il a fini de manger, tu demandes, tu veux quoi? Je veux 100 000, j'ai 50, prends. Et il veut partir, tu lui dis au revoir, tu fermes la porte, tu lui donnes un Nouveau Testament, tu dis, ajoute ça là-dedans, tu pars. Et là, ce jour-là, j'étais très sérieux. Et ils m'ont dit, mais comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Une semaine après, un de nos chrétiens est mort parce qu'il n'a pas ouvert la porte aux voleurs. Les voleurs ont frappé ici, ils ont volé. Ils ont frappé là, ils ont volé. Ils ont frappé là, ils ont volé. Quand ils sont venus chez lui, il a voulu résister, on a tiré sur lui. Il est mort aujourd'hui. On a volé chez tous les autres, ils sont vivants, ils ont reconstitué leur bien. Voilà où Jésus nous amène. Quand tu es dans un détachement des choses de la terre, et je dis à quelqu'un que, pour qu'on ne vienne même pas voler chez vous, faites comme moi. Quand j'étais au kilomètre 12, on volait partout, on ne venait pas chez moi. Pourquoi le gars entre, il voit les rotins, il fait quoi avec ça? Il cherche la télévision, il ne voit pas. Il cherche, il ne voit rien. Il va donc venir voler une bouteille de gaz. Quand il voit chez moi, il fait, il passe. Amen. Et je peux dormir tranquillement sur mes lauriers. Amener un voleur là-haut. Il va fouiller, il va fouiller. En partant, il va lui dire que gars, prends la paire de chaussures, tu as fait beaucoup de choses. Tu as réussi à monter. Mais si vient, tu ouvres. Attends, frère, ce que je dis, voilà ce que Jésus-Christ veut pour nous, pour que nous soyons libres. Et ça fait donc que celui qui a souffert, il n'est pas assis, il n'est pas attaché au matériel. Et il ouvre grandement la porte, et tu fais, tu prends, tu pars, et la vie recommence. Et si tu dis, au nom de Jésus, j'ouvre la porte, alors là, tu as encore fait un grand pas. Si tu ouvres la porte au nom de Jésus, et tu lui dis que ce que tu prends là, ce sont les choses du Seigneur Jésus. Fais attention, je te donne. Tu le laisses dans la justice divine. Et ça devient encore meilleur pour toi. Verset 41. Quelqu'un qui ne vit plus dans son moi et qui est brisé. Pourquoi tu me dis des paroles comme ça? Pourquoi est-ce que tu m'obliges à faire ça? Pourquoi tu m'obliges à laver les... Celui qui a souffert ne vit plus dans son moi. Il n'existe plus. Pour ne pas dire qu'il n'existe plus dans sa chair, mais il existe pour le Seigneur. Il ne va pas te dire, pourquoi tu me forces à faire 1 000? Pourquoi tu me forces? Il te dit, fais 1 000. Dès qu'on atteint le 1 000, il te dit, rentre. Tu dis, non, je fais 2. J'ai aimé ta compagnie pendant qu'on faisait 1 000. Je veux encore être en compagnie de toi. Faisons 2 000. Après, tu lui dis, faisons même 3. C'est ça. Il va se rendre compte que ton moi est mort. Ton moi n'existe plus. Verset 42. Vendredi, on se disait tout simplement, malheureusement, l'église primitive n'existe plus et n'existera plus jamais. Où chacun vendait sa maison. Comme je disais à mon frère, qu'il vende sa maison là-bas, moi aussi je vends celle-ci. On met l'argent ensemble et on commence à se donner chacun selon ses moyens. Hein, mon frère? Ça, c'est de l'utopie, n'est-ce pas? C'est du passé. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, chacun vit avec son salaire. Ici à l'église, on met tous les salaires en place et on commence à donner à chacun selon ses besoins. Celui qui a apporté 500 000 rentre avec 10 000 parce qu'il est seul dans sa maison. Celui qui a apporté 10 000 rentre avec 500 000 parce qu'il a sa femme, ses enfants et tout ça. Amen. Et on ne peut pas dire amen. On ne peut pas dire amen. C'est les apôtres qui pouvaient dire amen. Il y a 2000 ans, ils pouvaient dire amen. Mais maintenant, là, si vous dites amen, vraiment, je vais me fâcher. Il ne faut pas dire amen. Mais la Bible nous montre ici que quelqu'un est déjà sorti. Celui qui a souffert est sorti de tout esclavage d'argent, de tout esclavage matériel. Il peut prêter facilement sans rien attendre en retour. Et on peut donc continuer avec le verset 44 qui montre qu'il est plein d'amour et le verset 46 qui démontre en fait la réalité du cœur de celui qui a souffert. Que le Seigneur bénisse. Amen.